Sans surprise, le Congrès donne un avis favorable au report des élections provinciales. Les loyalistes, le Rassemblement, l'Uni, Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien ont voté en faveur de ce report. Et le groupe UCFLNKS et nationaliste a voté contre. Les débats qui ont permis d'évoquer longuement l'accord de Bougival. Sébastien Lecornu consulte les syndicats et organisations patronales. Le Premier ministre enchaîne les rendez-vous. Demain, place aux oppositions pour un numéro d'équilibriste pour le nouveau locataire de Matignon. L'actualité internationale est Pedro Sanchez qui demande le boycott d'Israël dans toutes les compétitions sportives. Le Premier ministre espagnol réagit après l'interruption de l'ultime étape de la Vuelta par des militants pro-palestiniens. Le sport dans les stades, ce coup-ci Armand Duplantis sur le toit du monde. Le perchiste suédois a battu un nouveau record du monde à Tokyo avec une barre à 6,30 m. La météo en Nouvelle-Calédonie, poursuite d'un temps bien ensoleillé pour aujourd'hui. Le vent de sud-est se renforce et souffle en rafale jusqu'à 35 nœuds. Quant aux températures, elles évoluent peu avec 24 à 27 degrés pour aujourd'hui.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, et sans surprise, je le disais, donc le Congrès de la Nouvelle-Calédonie donne un avis favorable au report des élections provinciales à juin 2026. 39 élus ont voté pour le report et 13 ont voté contre Lionel Sabot.
Mais les élus du Congrès devaient se prononcer sur le report de l'élection des membres des assemblées de province et du Congrès au plus tard au 28 juin 2026, alors que le scrutin doit avoir lieu, en principe, d'ici la fin novembre 2025. Cet avis du Congrès était sollicité alors qu'une proposition de loi organique a été déposée sur le bureau du Sénat pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025. Les partisans de l'accord de Bougival, loyalistes, rassemblement, Calédonie Ensemble et Éveil Océanien ont donc voté en faveur du report. L'UCFLNKS a voté contre. Pour les loyalistes, Sonia Baquès a expliqué pourquoi son groupe votait pour ce report.
Deux raisons principales. D'abord, c'est le premier acte de la mise en œuvre de Bougival. Et nous croyons que la confiance se gagne quand les paroles se tiennent. Donc ça, c'était important. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il faut faire les élections. C'est la légitimité démocratique qui s'exprime. Mais avec quel corps électoral ? Est-ce qu'on remet le corps électoral dans les mains du Conseil constitutionnel ou est-ce qu'on essaye de se mettre d'accord ? Et dans la mesure où le FLNKS ne veut modifier le corps électoral que dans le cadre d'un accord global, on ne peut pas faire les élections puisque évidemment elles seraient attaquées et sans doute annulées. Et donc on ne va pas refaire des élections provinciales tous les quatre matins.
Un vote en faveur du report pour le Rassemblement également. Il s'agit de permettre la mise en œuvre de l'accord de Bougival, souligne Virginie Rufnac.
Ce report des élections provinciales, c'est permettre aux Calédoniens de bénéficier de l'accord. Cet accord qui donne des perspectives, qui ne prétend pas au chaos, mais au contraire à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, autour d'un accord qui est celui de Bougival, qui est un accord équilibré entre les deux légitimités calédoniennes et qui surtout ouvre l'horizon des Calédoniens qui en ont absolument besoin aujourd'hui. C'est un accord à la fois de la confiance, mais c'est aussi l'accord de la vie tout court qui reprend en Nouvelle-Calédonie, plutôt que cette instabilité, la confusion que nous connaissons aujourd'hui. Il était essentiel pour nous de dire à la représentation nationale que le Congrès était favorable à ce report des élections, non pas pour garder des mandats, mais encore une fois pour mettre en œuvre cet accord, si les Calédoniens, bien sûr, l'approuvent.
Chez les indépendantistes, le groupe uni défend, on le sait, l'accord de Bougival et il a voté en faveur du report des provinciales. Un vote logique pour Jean-Pierre Djiaoui.
Nous restons dans la logique de notre décision de défendre, de porter, de présenter, de défendre le projet de Bougival. Donc nous sommes dans un calendrier, donc comme on l'a fait depuis notre retour de Paris le 12 juillet. Donc nous sommes d'accord pour reporter les élections, mais nous disons partout lorsque nous sommes devant la population calédonienne que l'accord de Bougival, c'est pas un accord contre d'autres Calédoniens, c'est un accord qui se veut être un accord pour tous les Calédoniens. Et donc il y a encore la possibilité de reprendre, de discuter, d'améliorer le texte dans le cadre du travail sur la loi organique spéciale.
Les Calédoniens Ensemble et les élus Éveil Océanien ont eux aussi soutenu le report des provinciales. Les seuls à s'opposer au report, ce sont les élus du groupe UCFLNKS et nationalistes. Position logique, là encore, pour un groupe opposé à l'accord de Bougival. C'est la position défendue par Pierre Chanel Toutougourou.
Le groupe UCFLNKS et nationalistes a rendu un avis qui est logique avec les positionnements du FLNKS à travers ces différentes motions qui ont été prises au congrès de Conception. Tous les textes qui participent à la mise en œuvre du projet, de l'avant-projet et qui est devenu apogé par je ne sais pas quelle intervention, verra notre opposition à la mise en œuvre de ces textes.
Et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donc émis un avis favorable au report de l'élection des membres des assemblées de province et du Congrès au plus tard au 28 juin 2026 à une large majorité avec 39 voix pour et 13 contre.
Un vote sans surprise et conforme au soutien à l'accord de Bougival, mais le débat a permis d'évoquer longuement cet accord et l'attitude du FLNKS qui s'est ensuite retiré après que sa délégation l'a signé. Et on a envisagé, Lionel Sabot, la reprise des discussions entre partenaires locaux.
Les Calédoniens Ensemble a même souhaité la négociation d'un complément à l'accord pour essayer de répondre à certaines attentes du FLNKS, ce qui lui permettrait de s'inscrire dans un compromis global. Une poursuite des discussions à laquelle adhèrent la plupart des groupes, mais pour Sonia Bekes, c'est aussi une question de légitimité.
Je pense qu'il faut qu'on continue à discuter. La discussion est ouverte. Il y a un vrai problème de légitimité au sein des négociateurs du FLNKS. On a vu que par trois fois, ils ont remis en cause leur signature dans les quatre dernières années. Donc je crois qu'il y a un problème interne à régler avant, de savoir qui négocie, qui signe, qui est légitime pour aller au bout. Et si c'est simplement pour dire l'indépendance au 24 septembre 2025, évidemment, les discussions vont être compliquées.
Pour le rassemblement, l'accord est équilibré. Virginie Rufnac met en garde contre une remise en cause du compromis.
Nous, on a une négociation difficile. Cette négociation a abouti à la défense d'un texte en l'état. Évidemment, dans le cadre du comité de rédaction, il y a un travail qui est mené sur les différentes lois, mais sur les grands principes de l'accord. On ne peut pas s'engager, signer cet accord et ensuite le remettre en cause une fois qu'il a été signé. Et donc, c'est important que chacun assume sa responsabilité face aux Calédoniens et ait le courage d'assumer sa responsabilité.
Pour l'UNI, Jean-Pierre Djéoué est d'accord pour la reprise de discussion. Il souhaite que l'accord soit porté par l'ensemble des partenaires.
Oui, il y a possibilité encore de se remettre encore autour de la table entre nous, Calédoniens, partenaires calédoniens. Et je pense qu'il y a des demandes qui ont été faites de voir s'il y a possibilité qu'on se retrouve entre nous. Nous, nous sommes preneurs pour que l'on arrive à faire en sorte à ce que cet accord soit un accord porté par l'ensemble des partenaires calédoniens.
L'UCFLNKS aussi se dit ouverte à la reprise des discussions avec les partenaires locaux, mais Pierre-Chanel Tuzogoro, qui a rejoint avec Gilbert Huyenon la délégation FLNKS, affirme que ce ne sont pas les appels du pied des autres groupes qui l'ont convaincu.
C'était pas des appels du pied, c'est une réponse à la consultation que j'ai faite la semaine dernière. On avait mené la délégation du FLNKS avec le maire de Canala, à la demande du président du FLNKS, pour aller dire nos positionnements, mais aller dire aussi que le FLNKS reste ouvert à un accord, seulement pas à n'importe quel prix. On avait un certain nombre d'éléments qu'il fallait apporter, qu'on voulait faire changer, intégrer, modifier un certain nombre d'éléments. Mais l'idée pour nous, c'était de pouvoir se remettre autour de la table et puis de discuter. Et avec l'État, c'est ce qu'on a fait. Et l'État, maintenant, nous a renvoyé aussi avec les partenaires locaux.
Pierre-Chanel Tuzogoro qui indique que le BP du FLNKS qui se réunit aujourd'hui devra décider dans quelle mesure il est prêt à engager des discussions.
Et en attendant, l'avis favorable du Congrès pour le report des élections provinciales sera transmis à l'État avant l'examen de la proposition de loi par le Sénat dans les prochains jours. Il ne pourra toutefois se réunir avant la constitution du gouvernement Le Cornu. C'est ensuite l'Assemblée nationale qui examinera le report des provinciales à juin 2026.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord, 95% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables au report des élections provinciales à juin 2026. Ils ne sont que 5% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Voici maintenant notre question du jour. Après le rejet de l'accord de Bougival par le nouveau FLNKS, êtes-vous favorable à la reprise des discussions entre partenaires locaux? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, mercredi, pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 6h39, on va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole, toujours dominée par la préparation du gouvernement Le Cornu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Il attire tous les regards et change les règles du jeu. Le nouveau Kia Sportage arrive en Nouvelle-Calédonie avec, pour la première fois, une motorisation hybride. Plus grand, plus confortable, plus économe en carburant. Osez un SUV qui ne fait aucun compromis. Kia Sportage, élégance et performance réunies.
Autocal 198 rue Jacques Ekaoué. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie. Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole et pour préparer le prochain budget de la France, mais aussi son gouvernement. Le Premier ministre enchaîne les consultations cette semaine. Les dirigeants de plusieurs syndicats et organisations patronales ont été reçus cette nuit à Matignon. La CGT, la CFTC, la CFE-CGC et la CPME. Et demain, ce sera au tour des oppositions, la gauche et le Rassemblement national. Et pour éviter la censure, Sébastien Lecornu doit jouer les équilibristes. Il doit obtenir le soutien du Parti Socialiste tout en conservant celui de la droite, Arthur Delaborde.
Pour durer à Matignon, Sébastien Lecornu a besoin du Parti Socialiste. Or, le PS fait monter les enchères, taxe Zuckmann sur les hauts patrimoines, suppression de la réforme des retraites, des conditions difficilement envisageables par le nouveau Premier ministre, d'autant plus qu'il risquerait de perdre le soutien des Républicains qui répètent qu'ils ne s'aligneront pas automatiquement. Dans ce jeu d'équilibriste, le Rassemblement national réclame la dissolution. La France insoumise, elle, parie sur le blocage et espère prospérer sur l'instabilité. Résultat, on voit mal à ce stade quelle marge de manœuvre Sébastien Lecornu pourrait encore exploiter. Il a déjà multiplié les gestes, abandon de la suppression des deux jours fériés, confirmation que le dossier des retraites ne sera pas rouvert, 49-3 qu'il dit vouloir éviter, ou encore suppression des privilèges à vie pour les anciens membres du gouvernement. Des annonces censées dessiner un chemin, mais qui pour l'heure ne change rien à l'équation politique.
Sébastien Lecornu qui doit tendre la main à la gauche s'il veut éviter la censure, alors qu'Olivier Faure suscite, lui, la polémique. Le premier secrétaire du Parti Socialiste demande à tous les maires de France de hisser un drapeau palestinien sur le fronton des mairies le 22 septembre. C'est le jour prévu de la reconnaissance par la France, notamment de l'État de Palestine, et jour du Nouvel An juif. Une initiative du premier secrétaire du Parti Socialiste qui interroge Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Oui, pour tenter de calmer la polémique, Olivier Faure se justifie. Tant que vous refuserez de célébrer le Nouvel An juif en même temps que la création de l'État palestinien, vous ne semerez que la haine, le désespoir et la mort, assure le patron des socialistes. Espèce d'inculte, tous les juifs ne sont pas pro-israéliens. Cette déclaration est antisémite, répond son camarade socialiste Julien Drey. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'en prend également à Olivier Faure en rappelant qu'hisser un drapeau palestinien sur une mairie est illégal. Mais en réalité, Olivier Faure lance cette polémique comme un contre-feu pour faire oublier les négociations de non-censure avec Sébastien Lecornu. D'un côté, le chef du PS veut prouver qu'il est responsable en refusant d'aggraver la situation politique et de l'autre, montrer au peuple de gauche sa radicalité et son attachement à l'idéologie insoumise. Un pari réussi car Jean-Luc Mélenchon félicite Olivier Faure pour son initiative. Courage, vous allez découvrir ce que nous vivons depuis 2 ans, conclut le leader insoumis.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Et concernant justement ce conflit entre Israël et le Hamas, après l'arrêt prématuré de la dernière étape de la Vuelta hier, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez demande de traiter Israël comme la Russie dans toutes les compétitions sportives. Et c'est donc un appel pur et simple au boycott. Écoutez-le.
Pourquoi la Russie a été expulsée après l'invasion de l'Ukraine ? Mais pas Israël après l'invasion de Gaza.
Et condamnation immédiate du gouvernement israélien, mais aussi de l'opposition en Espagne. Le gouvernement israélien estime que Sanchez est une honte pour l'Espagne. Toujours dans l'actualité internationale, l'étau se resserre autour de Tyler Robinson. L'ADN de ce jeune homme de 22 ans, interpellé vendredi pour l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, vient d'être retrouvé sur 2 objets découverts sur la scène de crime. Le suspect refuse de coopérer avec les enquêteurs, mais devrait être formellement inculpé demain. Une cérémonie d'hommage à Charlie Kirk sera organisée dimanche en Arizona, en présence du président des États-Unis, Donald Trump. Retour en métropole, 1 million de signatures. La pétition lancée par Philippe de Villiers sur l'immigration rencontre un succès sur référendum-immigration.com. L'ancien ministre demande un référendum sur la question et compte ainsi mettre la pression sur le président de la République. 1 million de signatures pour Philippe de Villiers, ce n'est qu'un début, Jacques Serret.
Oui, Philippe de Villiers ne s'attendait pas à un tel succès si rapidement.
C'est la surprise parce que les choses sont allées très vite. En 10 jours, 1 million, c'est... Inattendu.
Un succès qui renvoie à ses yeux un message on ne peut plus clair.
le peuple des signataires de la pétition voit qu'on ne contrôle plus rien. Et donc, il faut rendre au peuple français la maîtrise de son destin.
Philippe de Villiers ne compte pas en rester là. Il s'adresse à la classe dirigeante.
Leur dire, vous ne voulez pas voir ce que nous voyons. Vous ne voulez pas entendre le cri du peuple qui ne veut pas mourir. Aujourd'hui, nous sommes 1 million. Si vous ne répondez pas, demain, nous serons 2 millions, puis 3 millions, et plus encore.
Et plus particulièrement à Emmanuel Macron.
Je m'adresse au président de la République. Vous avez traité ceux qui parlent de sécurité et d'immigration de brainwashers. Voilà. Et bien aujourd'hui, les Français sont 1 million à vous dire, monsieur le président, de grâce, écoutez-nous.
C'est sans doute le début d'un séisme, conclut Philippe de Villiers, et d'ajouter, si la classe politique a abandonné la France, ce n'est pas le cas du peuple français.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. En bref, en métropole, le procureur parle, je cite, d'un tabassage en règle. 7 policiers violemment agressés samedi soir après leur service alors qu'ils se rendaient dans un restaurant du centre-ville de Reims. Les fonctionnaires se sont vus prescrire des ITT allant de 4 à 28 jours. 2 suspects ont été interpellés. Ils sont âgés de 26 et 27 ans et sont originaires de Mayotte. Il est 6h passé de 46 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec notamment ce deuxième jour du procès devant la cour d'assises. Il s'agit d'une affaire de viol ou encore l'USTKE qui appelle à se mobiliser. Ce sera jeudi après le mouvement Bloquons tout.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien, que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches. On est là, tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
Solde chez Global Partenze à Ducos. Du 1er au 28 septembre, profitez de moins 40% sur tous les pneus en stock. Oui, 40% sur les marques Apollo, Rodix et Royal Black. Dépêchez-vous, c'est le moment de changer vos pneus après-midi. Retrouvez-nous au 30 rue Lucien Hervouet à Ducos ou appelez le 286 000. Global Partenze, la qualité au meilleur prix. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Avec Canal+ et Lagoon, bénéficiez d'une offre exceptionnelle. 50 chaînes radios et services, plus Internet illimité pour seulement 3500 francs au lieu de 7500 francs pendant 3 mois. Et tout ça sans engagement. Rendez-vous en boutique Canal+ ou Lagoon pour en profiter.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité judiciaire en Nouvelle-Calédonie, deuxième jour de procès devant la cour d'assises. Depuis hier, 2 hommes comparaissent pour une affaire de viol sur une femme vulnérable. La victime étant sourde et muette, elle a été frappée à plusieurs reprises et violée par l'un des accusés. L'autre mise en cause est jugée pour non-assistance à personne en danger. Il n'a rien fait pendant les agissements du principal auteur des faits et le calvaire de cette femme sourde et muette. La Fédé fait part de son incompréhension face à son exclusion des groupes de travail relatifs aux réformes fiscales, sociales et économiques du territoire. Dans un courrier datant du 4 septembre, la Fédération des fonctionnaires évoque une sanction politique qui découle, je cite, de notre refus de signer un accord cadre dans son intégralité. La Fédé rappelle avoir remis aux institutions un plan de refondation sociale et solidaire témoignant de leur force de proposition. La Fédération appelle les institutions à revenir sur cette décision, faute de quoi elle introduira un recours. L'USTKE, de son côté, appelle à la grève générale jeudi, un mouvement en soutien à la manifestation en métropole organisée par les syndicats et qui fait suite au mouvement Bloquons tout, lancé sur les réseaux sociaux. L'USTKE organise un rassemblement devant le Haut Commissariat de 9h à 13h jeudi. Écoutez Fidèle Malaloy, le deuxième vice-président de l'USTKE.
Le principe fondamental entre syndicalistes, la solidarité. Déjà, à la lecture du communiqué national des syndicats qui se mobilisent pour le 18 septembre, l'USTKE constate qu'on a les mêmes symptômes ici concernant la précarité, concernant la vie chère, concernant le pouvoir d'achat, concernant le droit des travailleurs et la situation de pauvreté que vivent les travailleurs au quotidien. Quand je dis qu'on compare les mêmes symptômes, nous avons peut-être pas les mêmes causes, mais nous avons les mêmes acteurs qui sont en responsabilité au niveau politique et au niveau économique. Donc c'est une autre manière encore de les interpeller. On se doit de s'exprimer un peu plus fort aujourd'hui. On appelle à une manifestation, à une mobilisation pacifiste pour dénoncer ce qui se passe au niveau national concernant le droit des travailleurs. Et on appelle l'ensemble des travailleurs à venir se mobiliser devant le salariat.
L'USTKE qui a écrit aux autres organisations syndicales pour qu'elles rejoignent le mouvement de jeudi.
Radio Rythme Bleu, 6h50 minutes.
L'actualité culturelle est le Théâtre de Lille qui a lancé sa campagne de sensibilisation. Le 1er septembre, plusieurs interventions dans les établissements scolaires et à l'Université de la Nouvelle-Calédonie sont prévues. Cette campagne vise les jeunes passionnés de théâtre qui ont entre 17 et 23 ans en terminale ou qui possèdent déjà le diplôme du baccalauréat. Écoutez Myriam Rémingui, qui est responsable de l'action culturelle au Théâtre de Lille.
Cette campagne de sensibilisation, elle a pour objectif d'abord d'initier à l'art dramatique, de promouvoir le théâtre, mais aussi d'informer sur un concours et des auditions que nous préparons au Théâtre de Lille. Je suis accompagnée pour ces interventions de Pierre Gop, un dramaturge calédonien qui parle de son parcours aux jeunes. Le concours en question est initié par l'École supérieure de théâtre de l'Union qui se trouve à Limoges. C'est un partenariat qu'on a avec eux depuis 2018. L'objectif est de permettre à des jeunes ultramarins d'entrer donc dans cette classe préparatoire qui permet pendant un an de se préparer de manière intensive au concours des écoles nationales supérieures de théâtre en métropole.
Un stage entièrement gratuit, ouvert à tous, se tiendra du 20 au 24 octobre au théâtre, suivi du concours d'entrée le 25 octobre. Quant aux prochaines interventions dans les lycées, il y en aura au lycée Escoffier, au lycée du Mont d'Or, au lycée de Poindimier et à Marais. Vos rendez-vous sur notre antenne, alors que nous nous apprêtons à sortir de la saison fraîche. Quel bilan en tirer? Quel temps prévoit Météo France Nouvelle-Calédonie pour les mois à venir? Pour en parler, nous recevrons ce matin Thomas Abinoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie. Il sera en effet notre invité du matin à 7h30. Et puis dans 2 ans, les JMJ auront lieu à Séoul, en Corée du Sud. Créées par le pape Jean-Paul II, les Journées mondiales de la jeunesse sont devenues incontournables dans la vie des jeunes adultes catholiques. Comment se prépare-t-on à participer à un rassemblement de cette ampleur? Qu'apporte ce grand rendez-vous? Nous en parlerons ce midi dans le magazine Citoyen. Nos invités seront le père Ken Boirat, Narcisse Aoutoulou, vice-président du comité JMJ, Mati Filiquessa, qui a participé au JMJ 2023 au Portugal, et Sandra Wakondak de la paroisse du Bon Pasteur, qui partira au prochain JMJ à Séoul. Rendez-vous donc ce midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Il est 6h52, vous écoutez RRB. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot, avec notamment un nouveau record pour Armand Duplantis en saut à la perche.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Nouveau spectacle en septembre au Théâtre de Lille. On se retrouve dans une ville imaginaire du bush australien grâce à la compagnie Play It Again qui nous propose Australiana, une pièce théâtrale et musicale. Une saga familiale aux couleurs australiennes, pleine de joie, de poésie et de solidarité. Venez en famille découvrir cette pièce les samedis 20 et dimanche 21 septembre à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Une sortie en mer? EIM, spécialiste de la maintenance marine multimarque depuis 1987. Yanmar est agréé Suzuki et Sea-Doo. Un groupe électrogène, un moteur inboard ou hors-bord? EIM Marine à Nouville-Plaisance. Plus d'infos au 28 60 52 et sur Facebook.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'Internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Jeu réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
La foire de Koumaquet du Nord vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 septembre. 3 jours pour mettre à l'honneur le savoir-faire agricole et artisanal du pays. Découvrir les stands agricoles et horticoles, l'artisanat local et savourer les produits du Nord. Au programme, jeux équestres, rodéo nocturne, le plus grand rassemblement de chevaux du territoire, concours de barbecue et tonte de moutons, élection de Miss Foire de Koumac, karaoké géant, cap sur Koumac pour 3 jours de fête et de tradition.
Hi-ha ! RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec de l'athlétisme et la suite des championnats du monde à Tokyo. Hier soir pour nous, Lionel Sabot, en finale du concours du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis est encore un peu plus rentré dans l'histoire du sport et dans l'histoire, on peut le dire, avec un grand H.
Oui, un peu plus encore dans la stratosphère et dans l'histoire du sport. Armand Duplantis a franchi hier soir à Tokyo la barre des 6,30 m à la perche, améliorant pour la 14e fois le record du monde. En 5 ans à peine, Mondo Duplantis a habitué le monde à ses exploits, grappillant centimètre par centimètre cm, quelle que soit la scène, Jeux Olympiques, meetings, championnats du monde, en plein air, en salle, à vous de choisir. Et hier soir, la moiteur de Tokyo n'a pas freiné son élan. Mais il devait d'abord expédier les affaires courantes, s'assurer du titre, son troisième mondial, ce qu'il a fait en étant le seul à franchir 6,15 m. Une fois le stade national de Tokyo, rien qu'à lui, Duplantis a réclamé les applaudissements du public pour s'attaquer à cette fameuse barre à 6,30 m. Premier essai manqué de peu, le deuxième aussi. Très concentré, Duplantis reprend la direction du sautoir et la troisième tentative est donc la bonne. Le perchiste suédois exulte, enlace ses camarades du podium, le médaillé d'argent, le grec Karalis, et le médaillé de bronze, l'australien Marshall, qui termine au passage le concours après avoir franchi une barre placée 35 cm plus bas que celle de Duplantis. Côté français, ils étaient trois en finale de ce concours de la perche. Thibaut Collet a pris la cinquième place avec une barre à 5,90. Renaud Lavillenie, l'ancien, 38 ans, c'est lui classé huitième avec 5,75 m. Quant à Ethan Cormon, il s'est classé onzième avec 5,55 m.
Le sport, c'est aussi du cyclisme avec le début hier du Tour de Tahiti. Les coureurs ont lancé les hostilités avec un contre-la-montre individuel de 10 800 km pour ce début du Tour de Tahiti Nuit.
Et parmi les équipes, on retrouve la sélection calédonienne qui est composée de Kyril et Kyrian Moutry, d'Hugo Pommelet, de Grigory Potier et de Thomas Rizzolatti. Les Cagous ont réalisé une solide performance en ce début de compétition. Hugo Pommelet s'est classé troisième au classement général grâce à sa performance. Il prend le maillot à poids de meilleur grimpeur. Écoutez sa réaction.
Une place satisfaisante et décevante, parce que je pense qu'il y avait mieux à aller faire. Mais bon, c'est comme ça, c'était un chrono un peu particulier. Et puis bah, pour le reste du tour, on va essayer de faire au mieux et d'aller chercher un ou deux maillots distinctifs et de faire au mieux avec toute l'équipe.
À noter que le Calédonien Kyril Moutry prend la troisième place du classement des U19. L'Américain Quinn Felton est premier de l'étape et donc leader du classement général. Aujourd'hui, place à une étape de 100 km, globalement plate, mais qui s'achèvera tout de même sur une montée d'un kilomètre 300 qui devrait mettre à rude épreuve les cyclistes.
Et qu'on suivra évidemment sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Il est 6h57, on va terminer ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Mon micro est bien branché, on m'entend bien.
Tout est bien.
On peut y aller. Voilà. La météo, c'est avec
on
vous.
On est on air.
La météo, c'est avec vous, Thierry.
Oui, Nicolas, merci. Vigilance jaune, vent fort sur les communes de Païta pour ce matin, de Bouloupari et également pour La Foix. Analyse orientée sud-est qui se renforce cet après-midi. 25 nœuds, c'est-à-dire aux environs de 45 km/h et des rafales jusqu'à 35, voire 40 nœuds aux environs de 70 km/h. Ce matin, le temps sera ensoleillé, notamment sur l'est, ça se voit déjà. Le ciel sera plus nuageux sur l'extrême sud, au sud des Loyautés. L'Alizé pour ce matin, orienté à est. Sud-est, il s'établit rapidement autour des 20 nœuds, voire comme prévu sur le nord-est et l'extrême sud entre 15 et 20 nœuds. Sur la pointe nord et Belep, il sera compris entre 20 et 25 nœuds et des rafales jusqu'à 30-35 nœuds. Cet après-midi, poursuite d'un temps bien ensoleillé avec localement plus de nuages auprès du relief. Le vent, lui, sera orienté sud-est. Il se renforce autour des 20 à 25 nœuds et des rafales jusqu'à 30, voire 35 nœuds. Sur le sud-ouest, il dépassera les 25 nœuds et des rafales jusqu'à 35, voire 40 nœuds. Les températures, elles, comprises entre 24 et 27 degrés en général.
Merci beaucoup, Thierry. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je précise qu'on va parler météo également ce matin à 7h30 avec Thomas Abinoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie. Quel bilan pour la saison fraîche? Je pense qu'il dira doux et humide. Et quelles perspectives pour les mois à venir? Réponse tout à l'heure à 7h30. En attendant, à 7h, ce sera le rappel des titres de l'actualité de ce mardi matin. Puis le billet d'humeur de la rédaction signé Jean-François Baudin. Et ensuite, vous avez un avis. Vous nous appellerez au 25 46 46 pour exprimer vos avis sur l'actualité et sur les sujets du quotidien. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.